propose qu'on prenne la parole, c'est dans Luc chapitre 24, versets 36 à 45. Et c'est un passage absolument étonnant. Vous le connaissez sûrement, mais j'aimerais qu'on le revoie. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, donc Jésus, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors c'est absolument étonnant. Ils voient Jésus, les mains percées, et puis ils étaient dans la joie, mais ils ne croyaient pas encore. Qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'ils croient? Il a fait un barbecue. Il a fait un barbecue. C'est incroyable. Et ça c'est Dieu, c'est le Dieu incarné. Il fait un barbecue, il mange des poissons, il mange avec eux, et c'est là que leurs yeux, leur esprit s'est ouvert. Et ce passage dans le chapitre 24 de l'Évangile, il y a plusieurs passages. Vous avez la découverte du tombeau par Marie-Madeleine. Vous avez ensuite par Jeanne, Marie, le récit des femmes aux apôtres incrédules. Ensuite, la rencontre de Jésus par les disciples à Emmaüs, le partage du pain et du vin avec ses disciples qui le reconnaissent à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de voir que la reconnaissance de Jésus, ça se fait dans des choses très concrètes, matérielles. C'est-à-dire, on prend le pain et le vin, ils le reconnaissent. On mange un barbecue, ils le reconnaissent. Donc, la matière est utilisée pour faire ouvrir les yeux spirituels. Et le retour de Jérusalem ensuite, pour partager aux autres disciples, les 11, ce qu'ils avaient vu. Alors, les résurrections, on en a dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez tous le fils de la veuve de Sarepta dans Un Roi, Élisée qui ressuscite le fils de la Tsunamite dans Deux Rois 4, le fameux cadavre qui est jeté dans la fosse et il touche les os d'Élisée et puis il reprend vie, Deux Rois chapitre 13. Là, je rappelle, on l'a peut-être déjà dit ici, mais que cette résurrection, quand on touche des os, il s'agit ici, c'est quoi les ossements? Ça veut dire quoi pour nous, toucher des ossements? Élisée, il n'est pas là sous le bâtiment. Toucher des ossements, c'est toucher à l'histoire, c'est toucher à ce que le Saint-Esprit a fait dans l'histoire de ton pays, des nations. Il y a quelque chose, ce que Dieu a fait a une dimension éternelle. Quand on se reconnecte avec les sources, les puits anciens, il y a de la vie qui passe. Et les ossements d'Élisée, il y avait encore la vie dessus. Donc il y a des choses qu'on croit mortes. Attention, elles ne sont pas mortes. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, intercesseur, sacrificateur, on est appelé à prier pour que les choses anciennes qui ont été de Dieu reviennent à la vie, à la restauration. Alors autant de preuves éclatantes de la puissance qu'a le Seigneur sur la mort. Ça, c'est vraiment important. C'est des signes précurseurs qu'on voit aussi dans les Écritures avec le ministère de Jésus. Et nous voyons ça, le ministère terrestre. Vous savez, il y a les résurrections de qui? Vous en donnez quelques-unes là, de résurrection? Qu'est-ce qu'on connaît des résurrections de Jésus? Avant, qu'il a prié pour des gens. Qui c'est qui est ressuscité? Exemple. Lazare. Alors, Lazare, c'est le fameux. La fille de Jaïrus, voilà. Ah, le fils de la veuve. C'est un jeune homme à Nain, en Luc 8. Voilà, on a trois résurrections assez phénoménales. Donc, ce que j'aimerais souligner ce matin, ce n'est pas les résurrections passées, mais c'est en quoi l'événement de la résurrection de Jésus annonce, est un événement historique, mais qui anticipe l'avenir. Et c'est ça que j'aimerais vraiment qu'on souligne aujourd'hui. Souvent, on voit Pâques et on se tourne vers l'histoire. Et on regarde en arrière, il y a 2000 ans, on dit c'était super il y a 2000 ans, il est ressuscité. Mais la résurrection veut dire quelque chose pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et c'est ce qu'on veut voir maintenant. Il s'est produit dans l'histoire, au temps de Jésus, un événement qui anticipe l'avenir et qui peut nous donner des éléments sur certains événements futurs. Il s'agit donc de cette résurrection de Christ. Donc il y a deux mots importants. Lorsque Jésus est ressuscité par Dieu, il y a une sorte de discontinuité avec l'ordre naturel. La science, la biologie, tout ça, c'est touché, c'est bouleversé, quoi, par une discontinuité. Mais il y a en même temps une continuité. Et c'est ça que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, ces deux mots. Il y a une discontinuité de l'ordre naturel des choses et il y a une continuité, et c'est cette continuité souvent qu'on oublie, une continuité de l'ordre naturel. Jésus ressuscité possède un corps de chair et d'os, on l'a vu. Il porte les marques des clous, il mange et boit. Ça, c'est la continuité, vraiment une continuité. 40 jours après la résurrection, Jésus monté au ciel dans son corps. Il est monté au ciel dans son corps, sous les yeux des apôtres. Et alors les anges ont dit, voyez ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous descendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter, c'est-à-dire dans un corps. Acte 1, 11. Donc il y a une continuité. Jésus reviendra avec le même corps dans lequel il a vécu sur terre et avec lequel il est ressuscité au ciel. Alors c'est pour ça que ces événements passés sont instructifs. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous ? La résurrection à venir des croyants, eh bien, elle sera semblable à celle de Jésus. Ça, c'est impressionnant. On va un peu s'arrêter là-dessus. Hein. Alors, Paul, dans 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre de la résurrection. Il nous dit, Christ est les prémices des croyants décédés. Il est les prémices. Alors, les prémices, eh bien, c'est les produits agricoles qu'on récolte et qui annoncent la moisson. C'est ça les prémices. Ça annonce quelque chose. Ça annonce. C'est quelque chose de matériel, de palpable, mais que je peux toucher, mais qui annonce quelque chose qui n'est pas encore. Voyez, c'est ça les prémices. Eh bien, les prémices sont de même nature que le reste de la moisson. Les prémices de blé, on l'a ici là. Le blé, eh bien, ça annonce la grande moisson de blé. C'est la même nature. Hein. La résurrection des croyants, elle sera semblable à celle du Christ. La résurrection de Jésus, elle anticipe la leur. Alors la continuité, c'est ça. Comme Jésus, eh bien, il y aura une certaine continuité avec notre résurrection à nous. Hein? On va se reconnaître. Je verrai Franck, alors je ne sais pas si Franck aura tous ses cheveux ou pas. Ça, c'est des mystères encore. Mais on se reconnaîtra. On se reconnaîtra. Il y a une continuité. C'est notre corps. C'est notre corps qui sera là. Alors, je ne sais pas la taille, le poids que nous aurons. Est-ce que c'est le poids de 20 ans ou le poids des 50? Je ne sais pas. Mais ce corps-là, la Bible me dit, Philippiens 3, il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Donc, Paul est clair à cet égard. Il y a, voyez, une part de quelque chose qui est souligné comme il y a quelque chose qui va durer, qui va être la même chose, une similitude, et en même temps, une transformation. La transformation ici, le corps misérable, qui, autrement dit le corps qui est le nôtre, ressuscité sera notre corps actuel de chair et d'os, mais en même temps, il sera transformé. Donc c'est impressionnant ça. Il y a une continuité. Attention, nous ne sommes pas destinés à être des vapeurs. Nous ne sommes pas des chrétiens vapeur. Nous ne sommes pas des purs esprits. Hein. Parfois, on a l'expression « je vais sauver des âmes ». On a l'impression qu'il y a des nuages comme ça. Et puis, les gens, ils vont être touchés, puis ils vont flotter comme ça, un peu plus, un peu mieux. Et ça, c'est tout un langage qui est désincarné. Mais nous serons faits de chair et d'os. Hein. Notre même corps sera ressuscité. De même que Jésus a mangé et bu après sa résurrection, Matthieu 26, nous boirons du vin. Est-ce que vous le savez, ça? Alors, même les Américains. Matthieu 26, 29, nous boirons du vin nouveau dans le royaume de Dieu. Autant s'entraîner déjà maintenant. Non. C'est pour ça que les Français, ils anticipent le règne éternel. Ils ont compris quelque chose. Discontinuité. Il n'y a pas seulement la continuité. C'est que le corps actuel est transformé, sera transformé, rendu glorieux. Il y a le beau texte de 1 Corinthiens 15 encore. Il y a quelques indications sur ces changements extraordinaires. Il sera transformé de manière à devenir incorruptible et donc immortel. Donc immortalité, la mort n'a plus de pouvoir. J'aimerais rappeler que déjà aujourd'hui, avec la venue du royaume, il y a confrontation de royaume entre la mort et la vie. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, on prie pour les malades. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas tous les malades guéris, mais on en voit qui guérissent régulièrement quand même. Je parle de plus en plus. Dans les chambres de guérison, un jour, il faudrait qu'ils nous fassent un retour. Mais Nadine me disait récemment, dans les chambres de guérison qui ont lieu ici, régulièrement, il y a vraiment des guérisons. Hein. Donc ça, il faudra quand même, une fois un samedi soir, prendre un temps pour vraiment donner gloire à Dieu de ce qui se passe. Et merci à l'équipe qui, toutes les semaines, est là pour prier. En même temps, il y a la continuité, c'est-à-dire c'est notre corps présent qui va revêtir l'incorruptibilité. Alors, actuellement, notre corps est caractérisé par la faiblesse, il est corruptible, maladie parfois, infirmité, le vieillissement. Moi, je bénis Dieu, on est plusieurs ici, on vieillit ensemble. Hein, on vieillit ensemble, c'est beau, parce qu'on est toujours là, aimant le Seigneur, le servant. Hein, je pense à, ça fait combien de temps là? Dis-moi, 22, 23, Véronique, c'est pareil. Je pense à Francky. Hein, je pense, on vieillit ensemble, mes amis. Et ça, c'est beau parce qu'on est toujours là et on est toujours passionné du Seigneur. Mais en même temps, ce vieillissement, eh bien, ça sera fini, ça. Il n'y aura plus de vieillissement. Hein. Il va rester incorruptible. Verset 44, Paul dit aussi que notre corps deviendra spirituel. Ce qui signifie... non pas que notre corps deviendra immatériel, c'est là qu'on a du mal à comprendre. Spirituel, ça ne veut pas forcément dire immatériel. Spirituel, il fera l'objet d'une œuvre, d'un renouvellement de l'Esprit Saint, et il sera pleinement animé par l'Esprit de Dieu, et pas par des forces contraires, si vous voulez. C'est une pleine animation, seconde après seconde, par l'Esprit de Dieu. Notre corps va passer par une transformation qui le rendra radicalement nouveau, et nous pouvons vivre les prémices de cette transformation dans plusieurs domaines, et Jésus l'a manifesté. C'est le ciel qui touche la terre. Le but de l'histoire, c'est que le ciel, il touche la terre. Quand Jésus est venu, le ciel s'est ouvert. Déjà au baptême, il s'est ouvert. Et la croix est cet événement qui fait que le ciel peut toucher la terre maintenant. Donc, il la touche un peu sporadiquement. Quand le chrétien prend autorité, quand le chrétien est là et il croit et la foi libère quelque chose du ciel chaque fois. Mais ce ciel est déjà libéré maintenant, mais pas pleinement. Il faudra attendre la résurrection pour de tous les chrétiens pour qu'il y ait vraiment ce royaume de Dieu pleinement installé et le retour de Jésus, bien sûr. Donc notre corps va passer par une transformation. La nouveauté, ce n'est pas un don d'un autre corps. Ce n'est pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus l'influence du péché. Il n'y aura plus l'influence du péché. Alors, il y a une illustration que Paul donne pour éclairer son propos au sujet de la résurrection qui montre à la fois qu'il y a une continuité et une discontinuité. C'est l'image de la semence. Il parle d'une semence qui est mise en terre. La plante, elle pousse. La semence qui germe, elle pousse et elle devient plante. La plante, dit Paul, est très différente de la graine qui est semée. Très différente. 1 Corinthiens 15, 35-38. Il y aura pareillement, avec notre corps, c'est la même semence, c'est le même corps, mais en même temps, il y a une discontinuité, voyez, une transformation profonde. Affirmer qu'il y a un lien entre le corps maintenant que j'ai et le corps ressuscité, est-ce que ça signifie que le corps ressuscité sera composé des mêmes atomes? Non, pas forcément, non. Pas nécessairement. Prenons par exemple, on prend le fœtus. Le corps du fœtus, c'est difficile. On te met ta photo aujourd'hui, la mienne, et puis tu mets la photo du fœtus. Tu dis, mais est-ce que c'est vraiment Luc? Pas sûr. Il faut qu'il y ait le nom dessous hein, pour comprendre. Donc, c'est incroyable la différence, et pourtant, c'est la même chose. Et même aujourd'hui, les cellules qui te composent, il n'y en a aucune, il y a 10 ans, qui est celle qui te compose aujourd'hui. Toutes tes cellules ont changé. Donc, tu es à la fois pas le même, mais tu es à la fois le même. Et ça, c'est discontinuité, continuité. L'avenir de la création maintenant, et en particulier celui de la Terre, et on parle de la Terre de France par exemple, est lié est semblable à l'avenir de notre corps. L'apôtre Paul fait le lien entre la résurrection de Jésus, notre résurrection, et la terre entière, la création entière. Alors, le lien, il est dans Romains 8, versets 18 à 23. Paul affirme que la création attend la révélation des fils de Dieu, verset 19, Romains 8, 19. Qu'elle sera libérée de la corruption qui l'a servie pour avoir part à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc, ici, la libération des croyants, ça parle aussi de leur résurrection, la résurrection des corps. La création va connaître quelque chose de semblable à la résurrection de ton corps, de notre corps. Nous sommes partie de la création. Il n'y a pas que notre corps de chrétien qui va ressusciter. Il y a une œuvre de résurrection pour la création entière, une libération de la création. Ça, c'est extraordinaire. On participe à la puissance de résurrection de Jésus à la Pâque. Elle a commencé là, mais elle continue et elle va transformer jusqu'au cosmos entier. Et c'est ça. Tout à l'heure, elle a dit le verset, Jésus a tant aimé la France, alors le monde, qu'il a donné son fils. Et je rappelle ce qui nous tient cher ici, en grec, c'est Jésus a tant aimé le cosmos. Le cosmos, c'est bien plus que les gens. C'est la création tout entière. La résurrection de Jésus a un impact sur le cosmos tout entier. Il est mort et ressuscité pour l'ensemble de la création. Ce n'est pas seulement des âmes qui vont aller au ciel et il est mort seulement pour pardonner le péché et hop, ils vont au ciel et la terre, on s'en fout. Ça, c'est une vision dualiste, grecque, platonicienne, absolument anti-biblique, et nous devons revenir à ce que les Écritures nous disent. Donc, c'est au moment de notre résurrection que la création va connaître sa pleine libération. Et déjà maintenant, avec l'Esprit de Dieu, avec la marque de la prière, de l'intercession, le ciel qui peut rejoindre la terre, il y a déjà quelque chose, pas entièrement, mais déjà quelque chose qui peut changer. Je rappelle les réveils au niveau de l'Amérique du Sud. Vous connaissez peut-être les vidéos qui ont circulé au niveau de transformation. Vous aviez des légumes pas possibles. La taille des légumes, des jardins. Il y avait une bénédiction sur la terre elle-même. C'était vraiment fabuleux ça. Et je crois qu'il y a un impact régulier. Donc il y a un lien entre notre résurrection et ce que va connaître la terre. La résurrection du Christ est révélatrice aussi par rapport à l'avenir de la terre. Voyez. Alors, juste Romains 8, la création n'est pas seule à gémir. Nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Romains 8, versets 23 et suivants. Regardez, il y a d'autres textes qui vont dans le même sens. Matthieu 19, Jésus a parlé de quoi ? Du renouvellement de toutes choses. C'est Jésus, hein ? Renouvellement de toutes choses qui doit avoir lieu à son retour. Matthieu 19, 28, c'est Jésus lui-même. Le renouvellement de toutes choses. Acte 3, 21, Pierre a proclamé que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses annoncées par Dieu depuis les siècles par la bouche des prophètes. Donc, attention, il n'est pas dit destruction de toutes choses, il est dit restauration de toutes choses. C'est pas pareil. Alors, selon Paul, l'œuvre accomplie de salut en Jésus sur la croix ne concerne donc pas que les humains, mais tout l'ensemble de la création. Colossiens 1, 20, par Christ, Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc, si la terre est destinée à être détruite complètement, où est la réconciliation ? Il n'y a pas de réconciliation. Il y a un échec. Un échec. Ce n'est pas une réconciliation. Mais Dieu est venu pour réconcilier l'univers. Donc, on va voir juste quelques textes aussi qui peuvent poser des problèmes. Ainsi, la restauration future de la création découle de l'œuvre de la croix. Donc, quand on fête Pâques, vous voyez, c'est beaucoup plus qu'une dimension. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Lui, et souvent on se dit, ben moi je traîne encore. Alors ensuite on comprend que pour moi aussi, il y a la vie. Mais souvent on a du mal à comprendre que cette puissance de résurrection continue jusqu'à toucher le cosmos tout entier. Et c'est ça que... Donc il y a aussi une discontinuité. Pourquoi ? Parce que, comme dans le cas de la résurrection de Jésus, la résurrection de la terre sera l'effet d'une intervention de Dieu tout à fait particulière qui va dépasser tout ce que la science, tout ce que peut prédire. La science va être dépassée. Elle l'est déjà parfois, mais elle va être complètement dépassée par ce que Jésus va faire. La Bible met l'accent sur une transformation qui est la libération des conséquences du péché. Et ça, c'est pour nous, mais c'est aussi pour toute la terre. Romains 8, la création a été soumise à une condition misérable. Et le prophète Ésaïe, les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont annoncé cette réconciliation qui est commencée avec la Pâque. Le loup vivra avec l'agneau, Ésaïe. Hein. La panthère, Ésaïe 11, là, c'est Ésaïe 65, Ésaïe 11. La panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf et l'engrais seront ensemble. Un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte. Leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger auprès de la spique. C'est quand même pas auprès d'un nid de cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car le Seigneur, la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent les mers. Alors cette description n'est pas forcément à prendre littéralement, mais cette description nous annonce un rétablissement, une harmonie de toutes choses au sein de la création, dans lequel il n'y aura plus de dommages, il n'y aura plus de conséquences du péché. L'Apocalypse dit pareil. Voilà la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples à lui. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Apocalypse 21, 3, 4. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors juste quelques textes qui peuvent poser problème rapidement pour vraiment qu'il n'y ait pas de doute. Dans Matthieu 24, Jésus a dit, par exemple, le ciel et la terre passeront. Alors on se dit, bon, ça veut dire que tout va se finir, tout va passer. Dans Apocalypse, Jean dit, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alors quand on lit ça, on se dit, mince alors, mais qu'est-ce qu'il faut croire ? On a des passages qui nous parlent de destruction, on a des passages qui nous parlent de restauration, de rétablissement. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour un peu comprendre, regardons Paul quand on a lu le Corinthiens. La chair et le sang, dit-il, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alors, si on lit ça, on dit, bon, est-ce que ça veut dire que à la résurrection, notre corps ne sera pas matériel ? Si on lit ça, et on sait très bien que non, parce que les autres passages nous disent, non, la chair et le sang, Jésus a été de chair et d'os, il a mangé, il a pris ce barbecue, et nous aussi, pareil. Donc ça veut dire quoi, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu ? Eh bien, ça veut dire que dans l'état actuel, eh bien, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. La corruption, dit la Bible, ne peut pas hériter l'incorruptibilité. L'apôtre dit ceci, il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel, revête l'immortalité. Voyez ? Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais dans l'état actuel des choses, il faut que quelque chose se passe pour que ça passe dans l'éternité. Et quelque chose, c'est être revêtu d'incorruptibilité. Donc, dans l'état actuel, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu avec notre chair, notre os, nos os, tout ça. Mais pour y entrer, il faut être transformé de manière à devenir incorruptible. Donc, en fait, il s'agit des mêmes. La terre et le ciel ne vont pas subsister tels qu'ils sont aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Le ciel et la terre, dans la condition qui est la leur, disparaîtront. Non pas qu'ils seront anéantis, mais ils seront transformés. C'est le mot transformation. C'est vraiment, ce mot, c'est un mot-clé. Transformation, une nouvelle forme, une nouvelle condition. Dans 2 Pierre 3:13, on avait déjà évoqué ce passage, parce qu'on s'est dit, mais là, l'apôtre Pierre semble parler de destruction. Dans les derniers jours, les moqueurs viendront, etc. Il fait le parallèle entre la fin de l'histoire et le déluge. Et on se dit, on a l'impression, quand on lit le texte de 1 Pierre, vous pourrez le lire chez vous, 2 Pierre 3:13, qu'il est question, les éléments embrasés se dissoudront, tout ça. On a vraiment l'impression qu'il y a comme une destruction par le feu total. Mais ce qui est important, quand on lit bien le texte, il fait le lien avec le déluge. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leur propre désir. Ils tourneront autrefois en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Et au verset 5-7, Pierre s'appuie sur cet événement-là. Il a montré que dans le déluge, il y avait un exercement de jugement, mais ce jugement n'a pas amené l'annihilation de la terre. Et ce jugement a amené la mort de beaucoup, mais pas une destruction totale. Lorsque Pierre dit « Il y eut tout au fond un ciel et une terre, qui du milieu de l'eau est formé par l'eau, surgit par la parole de Dieu. Le monde d'alors périt, submergé par les eaux. Le ciel et la terre actuelles sont gardés en réserve pour le feu. » Quand on lit ça, on a l'impression que le monde avant le déluge, c'était une autre terre. Un autre ciel, et c'est pourtant la même terre et le même ciel. Donc il y a un langage biblique, si on lit un peu trop vite, on peut faire des conclusions un peu trop rapides. Et Pierre savait très bien que c'était la même terre et le même ciel. Voyez. Donc la puissance de résurrection, elle va toucher toute la création. Dans un passage de Pierre, il dit le ciel passera, et c'est pareil, dans sa condition actuelle, il passera. Mais il va subsister d'une façon transformée. Quand il dit les éléments embrasés, les gens disent ça parle des corps solaires, des corps. Le ciel va bouger. Il y a un ébranlement total des cieux, des étoiles. C'est le verbe grec luo qui signifie disloquer, désagréger. C'est pas une annihilation, encore une fois, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de débranlement général du cosmos qui va se passer. Les éléments embrasés se fondront. Le verbe ici, c'est liquéfier, se fondre. Et chaque fois que la Bible parle du feu, c'est rarement pour une destruction totale, ça parle toujours du jugement. Le feu de l'épreuve, par exemple. C'est pas un feu. Tout le monde est passé par le feu de l'épreuve, on est encore vivant. Donc le feu, ça parle d'un jugement. Et il est dit, la terre et les cieux actuels sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont connu aucun respect pour Dieu périront. Le feu, l'instrument, le verset 7 ici, c'est clé, le feu est l'instrument de jugement. Donc, le feu, c'est un rôle de révélateur. 1 Corinthiens 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, c'est quoi le rôle du feu? C'est le rôle de jugement, mais de révélateur. De l'intention souvent première de Dieu. Le feu sur la création, c'est pour révéler l'intention de Dieu, de sa création. Et la création, elle est là pour glorifier Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Est-ce qu'un jour les cieux vont se taire parce qu'ils seraient détruits? Les cieux n'arrêteront pas de raconter la gloire de Dieu. Il n'y aura aucun arrêt. Les cieux continueront de raconter la gloire de Dieu. Mais ce qui se passera, c'est qu'il y a un feu de jugement qui fait que la corruption, l'effet du péché va être consumé. Donc, en fait, la création n'est pas encore révélée. Elle n'est pas encore révélée. On a des indices. On arrive à lire quelque chose de Dieu dans cette création, mais elle n'est pas encore pleinement révélée. C'est comme nous. Nous ne sommes pas encore pleinement révélés tant qu'on n'est pas ressuscité pleinement. Vous voyez, il y a une révélation qui doit venir encore. Et c'est comme quand une épreuve révèle notre cœur. Parfois, on ne se connaît pas soi-même. On dit, moi, je vais te suivre, Seigneur, et puis il arrive une belle épreuve. Il faut tenir devant des gens qui se foutent de toi, qui se moquent de toi. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on n'est pas révélé. Donc, l'épreuve, elle n'est pas là pour nous annihiler. Elle est là pour nous révéler. Le jugement annoncé par Pierre aboutit non pas à la destruction de la terre, mais à la perdition des impies. On est orienté vers l'idée d'une purification totale. Une purification totale. Alors, je ne vais pas aller trop loin, on pourrait aller dans le détail, et un jour, ça serait plutôt l'objet d'une étude biblique plutôt que d'une prédication. Mais vraiment, je veux vous dire, Dieu parle non pas d'une destruction, la puissance de résurrection de Jésus, elle est assez puissante pour changer le cosmos. C'est ça que je veux dire. C'est pas Jésus qui ressuscite, il dit, voilà, je vais tout restaurer, je vais tout ça, et puis ensuite, il dit, ben non, ça ne marche pas, j'efface tout, on recommence. Ça, c'est vraiment une... C'est pas ça. Ça ne tient pas dans les Écritures, cette vision-là. Et alors, on a par exemple Paul, dans Romains, il met l'accent sur la restauration, la libération de la création. Et Pierre, il met l'accent sur le jugement. Il parle de la même chose, mais avec un accent différent. Et Pierre parle du jugement, pourquoi ? parce que son but dans l'épître de Pierre, c'est de dénoncer les illusions des gens qui prétendent que le monde va continuer à tourner comme il est là actuellement et qu'ils peuvent vivre comme ça leur chante. C'est ça, le projet de Pierre est différent. Donc il va mettre l'accent différemment. Mais quand on prend l'ensemble des Écritures, on comprend que c'est une histoire d'accent. Alors maintenant, et on va bientôt terminer, les perspectives de cette nouvelle terre, cette terre renouvelée. Vous connaissez tous Apocalypse 21, versets 9 et 10. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept fléaux, dernier fléau, vint, m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et là, écoutez bien, là, parce que j'arrive au cœur de ce que je veux partager ce matin. Donc, on pourrait, voyez, là, il dépeint cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, avec des traits caractéristiques un peu du jardin d'Éden. On a un peu comme un retour du paradis, si vous voulez, initial. Mais cependant, Jean ne parle pas d'un retour pleinement. Parce qu'au début de la Bible, ça commence par un jardin. Et à la fin de la Bible, ça finit par une ville. Et voyez, entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Entre les deux, pour passer du jardin à la ville, il y a toute la civilisation. Il y a toute la culture des hommes. Il y a toute l'histoire. L'au-delà, ce n'est pas un simple retour à la case départ. La vie avec Dieu, une fois qu'on est ressuscité, ce n'est pas le retour à un jardin d'Éden. C'est beaucoup plus que ça. Entre le jardin d'Éden et la nouvelle Jérusalem, il y aura toute l'histoire humaine. Et Dieu ne fait pas fi de l'histoire humaine. Dieu ne fait pas fi de la civilisation des hommes. Dieu n'est pas quelqu'un qui, avec une immense gomme, va tout gommer pour tout recommencer. Ce n'est pas ça. Apocalypse 21, 24, regardez. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne fermeront pas le jour. Il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, la gloire et l'honneur des nations, sans l'histoire, sans la civilisation, elles n'ont rien à apporter à Dieu. Mais Dieu dit, les nations vont apporter leur gloire et leur honneur. Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé. Tout le chapitre, on pourrait lire, on ne va pas le faire, mais la gloire de l'Éternel se lève sur toi, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi la gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière, des rois à ta clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, tu te réjouiras. Ton cœur bondira, se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians, etc. Ils apporteront la louange, mais ils apporteront aussi leur gloire. Donc on voit que dans cette terre restaurée, cette terre transformée par la puissance de résurrection du Fils et de Jésus, qui réconcilie tout avec lui-même, il ne gomme pas l'histoire des hommes et la civilisation. Il ne gomme pas tout ça. Il les rachète. Il les tous les acquis de l'humanité, qu'ils soient scientifiques, techniques, culturelles, toutes les réalisations bonnes et utiles pour l'humanité, inspirées par Dieu lui-même, inspirées par l'Esprit de Dieu, elles vont traverser la mort et elles vont être encore là pour l'éternité. Ce qu'on fait aujourd'hui, inspiré par l'Esprit de Dieu, a une dimension éternelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, inspiré par Dieu, est éternel. Dieu n'efface pas l'histoire, il est le Dieu de l'histoire. Dieu rachète les choses, amène son jugement, purifie. L'avenir est entre les mains de Dieu. Le projet de Dieu pour l'humanité et la création dans son ensemble, c'est la rédemption. Et la résurrection, pleinement vécue, elle libère de toute la puissance du péché et de ses conséquences. Donc là, vous voyez, il y a une portée qui est énorme. La première création, on pense, si la nouvelle terre n'était pas le ciel et la terre actuels, c'est comme une grande défaite de Dieu. La première création serait détruite à cause de la rébellion des hommes. Et en faisant participer le ciel et la terre à la rédemption, Dieu en fait remporte la victoire sur le mal et sur tous les terrains. Et sur tous les terrains. Il n'y a aucun domaine qui ne soit pas domaine de Dieu. La Bible dit la terre, il a donné la terre aux hommes. Alors les hommes, parfois, ils ont fait du mal à cette terre. Mais Dieu dit, je vais racheter tout ça. La puissance de résurrection de Jésus, de transformation. Le même corps de Jésus qui va manger du barbecue, c'est pareil pour nous. On va être encore renouvelé. Et c'est pareil pour la terre. Renouvelé, racheté, transformé. C'est pour ça, attention à ce que nous faisons. Dieu nous dit, tu as la capacité aujourd'hui d'agir dans l'histoire pour que la marque que tu vas donner soit une marque éternelle. Ton témoignage que tu donnes à un voisin, ta prière d'intercession pour ton pays, ça amène quelque chose du royaume de Dieu. Et ce qui est amené par le royaume n'a pas de fin. N'a pas de fin. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Combien cette résurrection de Jésus, elle nous touche aujourd'hui. Combien c'est grand. Combien c'est grand. Et le projet de Dieu pour chacune de nos vies, combien il est grand. Combien il est grand. Moi, je me rappelle, quand j'étais enseignant là, à l'éducation nationale, il y a un moment, j'ai senti la vanité de toutes les choses. J'ai dit, mais je veux que ma vie, elle serve à quelque chose. Je ne me vois pas faire la même chose. Déjà avant la conversion, c'était comme ça. Hein. Mais alors là, avec Dieu, je ne me voyais pas. Je veux faire quelque chose qui marque, quoi. Et quand Dieu, il te rachète, il dit, voilà, moi, je t'utilise pour marquer quelque chose d'éternel. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Ce que tu fais, ce que tu dis a une dimension éternelle. C'est incroyable. Donc attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Hein. Mais Dieu rachète. Et même parfois quand on se plante, Dieu est bon. Il dit voilà, je te relève et j'efface par mon sang le péché. Parfois les conséquences, c'est autre chose. Hein. Mais voilà, Dieu est le Dieu du cosmos. Et quand il dit je vais tout restaurer, ça ne veut pas dire qu'il va tout détruire. Mais ça veut dire qu'il va renouveler en profondeur. Seigneur, nous te bénissons. Tu es le Dieu du cosmos. Tu es le Dieu qui va tout restaurer. Tu es le Dieu qui rachète tout. La puissance du sang est assez puissante pour tout racheter, pour tout couvrir, pour tout renouveler. Seigneur, merci. Merci pour le royaume de Dieu qui est déjà venu jusqu'à nous, en Jésus, par ton esprit, dans nos cœurs. Et il n'y a pas de fin à cela, Seigneur. Seigneur, aide-nous à poser des actes dans nos vies, dans la culture des hommes, des actes dans l'histoire, des actes dans l'économie, des actes dans l'éducation, qui soient des actes qui parlent pour l'éternité. Seigneur, merci. Ce que tu fais aujourd'hui n'a pas de fin. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu bâtis aujourd'hui, ce qui est bâti avec de l'or, passera par le feu, mais traversera le feu. Merci Seigneur pour ta parole. Et la puissance du Saint-Esprit pour chacun de nous. Renouvelle-nous, Seigneur, et active cette puissance du royaume dans l'Église, au nom de Jésus, et dans notre pays, et à Guebwiller en particulier. Amen.